nous arrivons directement à la présentation de l'orateur du jour. Lionel Zinsou, qui est à mes côtés, est né en 1954 à Paris d'un père béninois qui était le médecin de Léopold Sédar Senghor et d'une mère franco-suisse infirmière. Il est également le neveu de l'ancien président du Bénin, Émile Derlin Zinsou. D'abord élève du lycée Louis-le-Grand, Lionel Zinsou poursuit ses études à Normale Sup, où son professeur d'économie n'est autre que, si je ne me trompe, Laurent Fabius. J'ajoute que Lionel Zinsou est aussi diplômé de Sciences Po, de la London School of Economics, et qu'il a été professeur d'économie à l'ENA et à Normale Sup. Devenu Premier ministre, Laurent Fabius a demandé à Lionel Zinsou de devenir sa plume à Matignon. Au milieu des années 80, Lionel Zinsou demande 2 ans de disponibilité et rejoint l'entreprise Danone. En 1997, il est recruté par David de Rothschild. Il insiste pour que la banque investisse davantage en Afrique. C'est le même message qu'il transmettra ensuite à Paribas Affaires Internationales, PAI Partners, dont il deviendra le grand patron en 2009, un an seulement après son arrivée dans la société. Mais ses racines béninoises se rappellent à lui grâce à l'une de ses 3 filles, Marie-Cécile, que je salue, et qui a créé à Cotonou une fondation pour promouvoir l'art contemporain africain. Lionel Zinsou a créé à Cotonou, de toutes pièces, une industrie de produits laitiers frais grâce au groupe Yoplait, dont il est le banquier conseil. En 2015-2016, Lionel Zinsou devient le premier ministre du Bénin. De retour en France, il est le fondateur de Southbridge, société de conseil dédiée au continent africain. Il est aussi le président du think tank Terra Nova. Lionel Zinsou, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir, se veut afro-optimiste. Cher Lionel, la semaine dernière, nous avons reçu Bruno Tertrais, qui nous a parlé des perspectives démographiques mondiales, et notamment de celles du continent africain. Pour résumer, en 2050, un habitant sur 4 de la planète sera africain. C'est dire l'importance de notre séance d'aujourd'hui, intitulée « Quel avenir pour le continent africain ?» Cher Lionel, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Vice-présidents, avec toute ma reconnaissance à Monsieur le Grand Rabbin de m'avoir donné cette place un tout petit peu plus confortable. Monsieur le Chancelier de l'Institut, je suis très très honoré de votre amicale présence. Mesdames, Messieurs les académiciens, chers amis, chers parents, chers et distingués invités, je suis très très honoré que vous m'ayez donné un défi à peu près impossible, de faire en quelques minutes un portrait de l'Afrique de demain. Donc je vais essayer de commencer par ce que je connais peut-être le moins mal, qui est l'économie de ce continent et l'avenir de ce continent, expliquer pourquoi il faut lutter contre les afro-pessimismes, et essayer de le faire autour des 3 sujets, au fond, clés pour le développement, qui sont, au fond, combinés du travail avec du capital et avec de la connaissance, les 3 termes de la fonction de production. Et puis ensuite, peut-être, aller dans un terrain un petit peu plus politique, sociologique, géopolitique, sur l'avenir du continent en termes d'état de droit, en termes de régime démocratique, en termes de souveraineté, qui est vocable qui revient de plus en plus dans la politique de notre continent, du nord au sud. Mais peut-être juste pour expliquer d'où je parle, parce que ça donne quelques limites à mon propos tout de même, parce que, si vous voulez, fondamentalement, je suis quand même métisse. Mais alors, je ne suis pas simplement métisse au sens où je suis considéré comme noir en France et indubitablement blanc au Bénin. Ça ne fait de doute pour personne au Bénin que je sois blanc. Ce n'est pas simplement voilà, cette espèce de communion universelle par le sang. C'est aussi que j'ai vécu dans le secteur public. Je suis, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, un enseignant de formation. Et puis, j'ai été associé à l'action publique assez jeune. J'ai en effet regardé, observé d'assez près un premier ministre de la République française. Vous avez dit que j'étais au fond en charge de ces discours. À l'époque, on appelait, mais ça a changé un peu, on appelait ça le fait d'être le nègre du Premier ministre. Donc j'étais le nègre du Premier ministre et j'en étais très fier. Et j'étais très jeune. Mais c'est très utile si vous devez devenir, même dans un pays différent, Premier ministre vous-même, d'avoir la chance d'en avoir observé un d'assez près, si vous voulez. Donc il y a ce côté, effectivement, binational, il y a ce côté d'être serviteur de deux républiques comme fonctionnaire et comme responsable politique à un moment donné. Puis aussi, j'ai quand même beaucoup vécu, plus d'ailleurs en termes d'années, dans le secteur privé, notamment financier. Et puis j'ai une sorte de passion quand même pour tout ce qui est associatif, qui est au fond un tiers système. Je suis donc très honoré que le Terra Nova soit représenté par son directeur général aujourd'hui, mais je suis aussi content de voir ma fille qui a créé une fondation, avec un peu de mon aide quand même, au Bénin, dédiée à la culture. Bon. Donc en fait, si vous voulez, j'ai vécu dans quelques mondes différents, en étant étonné partout, naturellement. Donc, et toujours ayant, au fond, quand même, la culture un peu hétérogène d'autres valeurs et les comparer en permanence. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu les limites de mon propos. Je suis un peu un économiste, mais pas assez tout de même, bien que je salue dans cette salle les gens qui m'ont appris de l'économie. Pour vous dire à ce titre, d'ailleurs, c'est que parlant devant mes maîtres, de la Sorbonne, de Sciences Po ou de l'École normale, encore plus même que parlant devant mes camarades de promotion, je dois vous avouer que, comme candidat à la présidence de la République, ce que j'ai fait au Bénin en 2016, je trouve quand même que c'est beaucoup moins intimidant un stade de 100 000 personnes qu'une communication devant votre compagnie. Donc, je ne vous le cacherai pas, ne serait-ce que parce que parler devant, quand on a quand même pris un tout petit peu d'âge, mais parler devant ses propres maîtres, c'est évidemment toujours émouvant. Alors, si on vient au sujet, si vous voulez venir, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Des choses qui vont extrêmement vite, qu'il s'agisse du capital humain, qu'il s'agisse du capital financier et des actifs de ce continent, et qu'il s'agisse de la diffusion et de la création de la recherche et de l'éducation et de leurs produits, qui sont des changements technologiques majeurs pour le développement. Cela étant, le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, comme le rappelait le président Macron il y a quelques jours à Nairobi, soit le continent qui est la croissance la plus forte sur la planète, dans un contexte où c'est aussi, en termes environnementaux, le seul continent à émissions négatives, c'est le continent zen, zéro émission. Malgré tout, c'est quand même au fond très difficile à gouverner. C'est une chose que d'avoir associé les facteurs d'une croissance forte. Pour vous donner une idée, on a publié la semaine dernière le PIB de mon pays, le Bénin, pour 2025, sous le contrôle du Fonds monétaire international, à 8,1% de croissance en 2025, en volume. Et comme il y a peu d'inflation, grosso modo, un petit peu plus de 10% en valeur. Et ce n'est pas la croissance la plus rapide. L'Éthiopie est un peu devant, la Guinée est un petit peu devant, la Guinée-Conakry. Non loin, vous avez la Côte d'Ivoire, non loin, vous avez le Rwanda. Donc vous avez quand même, au fond, toute une partie de l'Afrique qui a des niveaux qu'on ne rencontrait guère qu'en Asie, il y a quelques années. Il se trouve que l'Asie, du fait d'un certain repli de la Chine, n'est plus tout à fait la locomotive du monde. Donc, si vous voulez, c'est quand même très difficile à gouverner. Alors, là aussi, dans mon adolescence, j'ai beaucoup observé mon oncle, parce qu'il était président de la République. Puis ensuite, je n'ai pas réussi moi-même. J'en suis peut-être soulagé d'ailleurs, mais enfin, à être président de la même République. Mais en attendant, j'ai quand même assumé peu de temps. Encore que par rapport à la jauge française des deux dernières années, ça finissait par faire quand même 10 mois, c'était quand même presque convenable. Mais enfin, c'est quand même très peu pour arriver à mesurer combien c'est difficile de gouverner, parce que c'est très difficile de gouverner un pays dans la misère, un pays dans la guerre. Alors on en a quelques-uns, mais on en a plus qui sont dans une transformation qui a des effets sociologiques de génération en génération, très complexe. Je veux dire, quand on change au rythme où nous changeons, nous avons des tensions sociales, par définition, des transformations du travail, de tout ce qui est, au fond, social, qui peuvent créer des tensions très fortes et des instabilités très fortes. Mais regardons quand même peut-être quelques faits. Au titre de la démographie, vous en savez plus que moi, puisque vous avez effectivement mesuré tout à l'heure ce qui va se passer en termes de croissance de la démographie en Afrique, mais je voudrais juste insister sur peut-être 3 caractéristiques. Ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de la croissance démographique en Afrique, c'est l'accroissement de l'espérance de vie à la naissance. Ça n'est plus le moteur de la fécondité. Il y a toujours une fécondité élevée, mais vous voyez, le Maghreb est passé à un type, et l'Afrique du Sud aussi, tout à fait à l'opposé, sont passés à des indicateurs européens. C'est-à-dire que la Tunisie est à 1,6 enfants par femme, et bien plus vite qu'on ne l'aurait pensé, même l'Algérie est maintenant à 2,1. Et le royaume du Maroc passe en dessous de 2, chose qui est allée beaucoup plus vite que les prévisions. En revanche, si je prends l'exemple de mon pays, qui est très caractéristique de l'Afrique de l'Ouest, nous avions, à l'indépendance, mesuré par nos très bons systèmes statistiques légués par la République française, nous avions une espérance de vie à la naissance en 1960, au jour de l'indépendance, de 30 ans. 30 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est le chiffre de la France de 1750. Donc, le travail sur la santé publique des colonies n'était pas achevé. 66 ans après l'indépendance, aujourd'hui, on est à 67 ans d'espérance de vie à la naissance. Il y a très très peu d'exemples historiques d'une telle vitesse. C'est difficile. Vous avez même en Afrique centrale, où on partait de situations plus critiques encore. Nous avons un rythme où, grosso modo, on a gagné récemment 1 an de vie de plus chaque année. Monsieur le Président, je crois qu'il est 15h20. Vous voyez, si on était béninois tous dans la salle, là, on aurait gagné 10 minutes de vie. Mais si on était congolais, on en aurait gagné 20, si vous voulez. Il y a une rapidité extraordinaire. Bon. Ça, c'est quand même très, très important, parce que c'est il y a une deuxième caractéristique, c'est qu'évidemment, la pyramide des âges va changer, avec ceci que nous aurons un rapport d'inactifs aux actifs qui, aujourd'hui, pénalise l'Afrique et qui va petit à petit la libérer et libérer beaucoup de force, parce que nous avons moins d'enfants, toujours assez peu de seniors de ma génération à moi, et nous avons de plus en plus de jeunes actifs. Et nous allons nous retrouver, dès 2050, dans une situation où on changera complètement les paramètres de la créativité, de la création d'entreprises, de l'épargne, évidemment, parce que nous aurons, par rapport à tous les continents, la première des populations des 18 à 35 ans qui sont quand même, comme mesuré dans l'exemple chinois des années 60-70 et aujourd'hui, il y a quelques années vraiment, en Inde, au fond, les continents où on trouve cette particularité de la pyramide des âges sont quand même, ont toujours été, les guides de la croissance de la planète. Donc cette pyramide des âges et cet effet de l'espérance de vie, c'est beaucoup plus important que ce que craignent beaucoup de gens, c'est-à-dire un fardeau de la démographie avec une difficulté à faire rentrer sur le marché du travail une très nombreuse population. Là encore, si je prends quelques chiffres béninois pour caractériser, mais là encore, ils sont typiques. Quand moi je nais, il y a 2 millions d'habitants dans ce qui s'appelle le Dahomey. Aujourd'hui, il y en a 15 millions. Et évidemment, les classes creuses dans mon genre, qui s'éloignent du travail, doivent être remplacées par des générations d'un pays qui est 7 fois plus peuplé. Et donc, évidemment, il y a un problème très, très particulier d'entrée sur le marché du travail, avec une difficulté supplémentaire qui est que, comme nous n'avons pas encore une structure économique en termes de secteur tertiaire moderne et d'industrialisation, nous avons un système d'éducation qui produit, au fond, une jeunesse selon les canons, les règles, des disciplines du reste du monde et le plus avancé. Mais nous avons encore une économie qui est une économie proche de l'économie de traite et d'une économie très dominée par le secteur agricole. Nous avons aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, 50% de la population active, pas 3% comme en Europe, 50% qui s'emploie directement dans l'agriculture. L'agriculture ne délivre pas 3% du PIB, comme en Europe. Elle délivre 25%. Et encore, du fait du Maghreb, du Mashrek et de l'Afrique du Sud, qui sont beaucoup plus industrialisés que le reste de l'Afrique, il y a beaucoup de pays où on est plutôt à 40% du PIB qui vient et provient directement de l'agriculture. Donc on a une structure de l'économie qui a changé lentement, mais nous avons une structure de la formation qui est au standard de plus en plus proche du reste du monde et du monde avancé. Je reviens du Bénin, où j'accompagnais la présidente de Sorbonne Université, parce que, hors les murs, après Abu Dhabi, la Sorbonne se propose de venir s'installer au Bénin. Alors, ça nous fait assez plaisir, parce que on nous appelait, dans les années 50-60, le quartier latin de l'Afrique. N'ayant pas beaucoup de ressources, on nous avait spécialisé dans la colonisation française, dans la production d'intellectuels, de médecins, de juristes, etc. L'idée que la Sorbonne ait choisi de s'installer dans le quartier latin de l'Afrique nous a paru tout à fait normale. Mais en fait, c'est quand même un peu une exception. Bon, c'est bien cela, mais nous avons au fond à voir de plein exercice, à partir de 2027, un master d'intelligence artificielle, un autre d'ingénierie de la décarbonation. Ça, c'est bien, si vous voulez, parce que C'est évidemment une urgence, et c'est avec ça qu'on fait le futur du continent. Cela étant, nous sommes dans une structure économique qui, elle, est quand même décalée de presque une génération et qui va devoir changer d'une façon rapide. Et vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'expliquer, ce qui est un peu, c'est plus facile à un professeur d'économie froidement qu'à un responsable politique. Parce que vous êtes obligé de dire, vous savez, l'agriculture, 50% de la population active, quand mes petits-enfants auront 30 ans, ça sera 25%. Et l'exode rural sera massif. Et tout le monde aura dû changer de métier et de culture et de façon de vivre. C'est très difficile aussi à un responsable politique en Afrique. Moi, je vous conseille absolument de vous engager dans la politique française, beaucoup plus simple, me semble-t-il, que dans nos pays, parce que vous êtes obligé de dire à des jeunes, vous êtes l'exception du monde dans ce continent, d'un bout à l'autre, où plus vous êtes diplômé, plus vous êtes exposé au chômage. C'est quand même complexe. Et leur dire, c'est normal. C'est logique, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons une économie qui est à très fort coefficient de capital et pas du tout de travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'eau et l'agriculture. Et ce n'est pas de chance, ces quatre secteurs sont ceux où les investissements sont les plus importants avec des créations directes de travail les plus faibles. Et donc, expliquer à la faculté de sciences économiques, vous savez, dans 10 ans, 15 ans, on sera en plein emploi parce qu'on aura fait ce travail. Et en effet, l'Afrique, elle est méconnaissable en termes d'infrastructures. Elle est méconnaissable en termes de progrès de l'énergie et notamment renouvelable. Vous avez des pays où il y a 80% d'hydroélectricité. Vous avez au Maroc 50% de renouvelables et le produit électricité marocain est le moins cher du monde, avec celui du Chili à partir d'éoliennes terrestres et à partir de solaire. Mais expliquer à des gens à la faculté de sciences économiques, dans 15 ans, tout cela nous garantit le plein emploi, mais alors vous, en fait, vous allez rester dans le chômage pendant encore 15 ans, quelque chose comme ça. Parce que, évidemment, toute la structure de l'économie correspondra à vos compétences. Mais pour l'instant, vous êtes la génération perdue de gens qui sont en avance sur leur temps. Je vous assure qu'il vaut mieux le dire dans un amphi que dans un stade. Et dans 54 pays, la population, non seulement la jeunesse, mais les parents qui gardent des enfants qu'ils ont, au fond, poussés aux études les plus avancées, en faisant des sacrifices et en espérant qu'ils soient leur épargne longue et leur retraite, doivent en fait, alors qu'ils sont trentenaires, continuer de les assumer. Et ça, c'est politiquement très, 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 très difficile. Et vous comprenez mieux certains éléments de rejet, de rébellion, non seulement contre les dirigeants, mais même parfois des parties tiers, comme, prenons le Sahel et les pays francophones, par exemple la France. Parce qu'il faut absolument trouver des coupables. En dehors de la culpabilité, parce qu'il y a eu quelques effets de prédation, il y a quand même quelque chose de plus important, c'est qu'effectivement, nous sommes désarticulés entre une modernité de l'éducation et un certain archaïsme encore de notre structure économique. Et ça, si vous voulez, c'est évidemment un des problèmes du futur dans sa stabilité. Et cela peut faire parfois l'enchantement de ceux qui veulent déstabiliser l'Afrique, et notamment, c'est un bon argument, contre les terrorismes, et un bon terrain pour quelque chose qui est très proche du terrorisme, qui est de moins en moins liturgieux, mais qui est beaucoup plus relevant du crime organisé. Et donc, évidemment, cette rapidité et cette situation des populations et cet effet de démographie sont fondamentaux pour comprendre pourquoi nous avons déjà le capital humain de ce qui permet notre modernité. Et quand on va dans les grandes villes, on est impressionné d'un mois à l'autre par la dynamique, presque partout dans le continent, et en même temps, on est dans des situations qui sont instables et parfois socialement très tendues, en fait. Ce qui est évidemment quelque chose, facteur de fond de résistance à la démocratie et de préférence à l'exercice de la force ou de la violence dans le pouvoir. On sait développer, on sait à peu près à quel calendrier on va voir les progrès. On sait que tous les éléments sont prêts dans certains pays, pas dans tous, mais quand même dans une quinzaine ou une vingtaine de pays qui représentent probablement quelque chose comme 70% du PIB. Mais on sait aussi que gouverner le futur, c'est plus, au fond, c'est plus difficile que de le créer économiquement. Deuxième point, je vais aller quand même un tout petit peu plus vite là-dessus, en dehors du capital humain, où je crois on est véritablement dans une situation structurelle de dividendes démographiques et non pas de fardeau démographique. Je suis prêt à tout débat là-dessus, parce que c'est évidemment un débat, tant dans le continent qu'en dehors du continent, de savoir si nous avons dans la démographie un fléau ou un atout. Bon. Sur le capital, là aussi, on est en train d'aller très vite, mais on part de très loin. Au fond, le capital financier en Afrique est un goulot d'étranglement. Il n'y a aucune raison qui aurait pu faire, en dehors de quelques pays qui avaient un statut colonial particulier, évidemment l'Algérie, le Maghreb en général, un peu l'Égypte, un peu l'Afrique du Sud. Mais en dehors de cela, il n'y a aucune raison que les années de colonisation aient été propices à créer une accumulation de capital. Ce n'était pas l'objectif de l'économie de traite, et donc il n'y avait pas, jusqu'aux privatisations récentes de la fin du XXe siècle, il y avait très très peu de secteurs privés. Même quand les régimes étaient politiquement libéraux, en fait, c'est quand même les États qui ont, même par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple, vraiment, où on était très hostile à des économies socialisées, c'est quand même l'État qui a fait l'effort de l'investissement parce qu'il n'y avait pas de capital en main privée. Bon. Donc ça, c'est un élément historique. Du coup, nous avons des marchés financiers qui sont encore extrêmement limités. La bourse de Johannesburg, c'est à la fois 70% de la capitalisation boursière de tout le continent. C'est dire que Casablanca, Le Caire, Nairobi, Lagos, qui sont les plus vigoureuses en dehors de l'Afrique du Sud, sont quand même modestes, pour ne pas parler d'Abidjan en matière d'Afrique francophone. Mais ces 70% de capitalisation représentent 1% de la capitalisation du New York Stock Exchange. Donc vous voyez combien on est marginaux encore dans le domaine des marchés financiers. Le problème, c'est que le marché financier, ça sert quand même à collecter du capital pour les entreprises, ça permet de faire des transactions, de les faire grandir, de les concentrer, ça permet de, pour les métiers de capital investissement, de private equity que vous avez évoqué avec mon expérience de Paribas Affaires industrielles. Mais pour pouvoir, au fond, investir dans les entreprises, il faut pouvoir sortir de leur capital. Le seul endroit où on a la porte d'entrée et la porte de sortie pour collecter le rendement, c'est le marché financier. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe, qui devient de plus en plus professionnel, Mais là, on a vraiment 100 ans de retard, encore. Tout à l'heure, nous parlions avec un des membres de votre académie qui me disait qu'il avait beaucoup travaillé dans la médecine en Afrique de l'Ouest, qui était le métier aussi de mon père, vous l'avez rappelé. Mais là, si vous voulez, dans le domaine des sciences, par exemple, dans le domaine médical, on n'a pas de retard. On a du retard dans les infrastructures hospitalières. Encore qu'au Bénin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a été maître d'ouvrage d'un CHU. Il se trouve que je l'ai vu la semaine dernière, ça m'a beaucoup frappé. Puis probablement un des meilleurs hôpitaux français. Et c'est aussi le plus neuf. Si vous voulez, le plus... Donc là-dessus, on n'a pas 100 ans de retard. On a 100 ans de retard en matière de marché financier. C'est pire en matière bancaire. Il y a un thème de la dette. L'Afrique croule sous la dette. Et on vous parle dette publique. Bon, le thème est moins fort, intense aujourd'hui, parce qu'il se trouve que tous les pays avancés ont aussi quelques problèmes de dette publique. Donc le fait que la dette africaine croisse et ait dépassé un peu 60% du PIB, c'est un chiffre qui est regardé différemment aujourd'hui de ce qu'il était avant Covid, disons. Mais il faut regarder la dette privée, la dette du secteur privé. Les concours aux entreprises et aux ménages représentent en moyenne le crédit rapporté au PIB, 40% du PIB, c'est la moyenne, avec trois exceptions, le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont plus près de 100%. La moyenne européenne, c'est 150% du PIB, la distribution de crédit à l'économie. La moyenne chez nous, c'est 40%. Nous ne sommes pas vraiment surendettés en termes de dette. Il y a des exceptions, évidemment, comme dans tous les continents, quand on regarde la dette publique. Mais on a des difficultés à servir la dette parce que nous ne levons que très peu d'impôts. C'est-à-dire là où les pays de l'OCDE, où l'OCDE collecte un petit peu plus de 36% en prélèvement obligatoire, l'Afrique est à 14%. Vous savez que la France est un peu au-dessus de 50. Donc il y a quand même un grand contraste. Et donc on ne peut pas faire le service de la dette publique aisément quand on a du mal à collecter l'impôt. Or, on ne peut pas collecter l'impôt quand, dans un pays comme le mien, qui là encore est dans la moyenne, nous avons 50% du PIB qui est délivré par le secteur informel. Mais ces 50% du PIB représente 90% de l'emploi en Afrique subsaharienne. Ce qui est formalisé, les entreprises qui s'acquittent de l'impôt et de tout ce qui est charge sociale, c'est 10% de l'emploi, 50% du PIB. Pourquoi ? Parce que massivement, ce que je disais tout à l'heure sur l'agriculture, 50% de la population active, est à l'intérieur essentiellement de ce secteur informel. Donc vous voyez, on est quand même dans des éléments structurels qui font que nous avons une très grande difficulté à ce que les banques fassent autre chose que faire le moins de crédit possible en prenant le plus de dépôts possible, parce qu'il y a une tradition d'épargne à travers tout le continent qui est élevée, et au fond, à financer ce qui comporte le moins de risques, c'est-à-dire surtout pas du crédit au logement, premier emploi dans les banques françaises, surtout ne pas faire de financement d'investissement, mais faire des crédits très courts, et pour les crédits les plus longs, les concéder aux États, ce qui fait un crédit très rare et très cher pour les entreprises, pour le secteur qui crée les emplois, et plus encore, de vendre au fond, des instruments de crédit en dehors du continent. Si bien que nous sommes un continent net-net qui finance le reste du monde. Et ce n'est pas la perception. La perception, c'est l'Afrique consomme beaucoup de dettes, l'Afrique reçoit de l'aide publique au développement. Il se trouve, comme vous le savez, qu'elle est en forte régression du fait des problèmes des pays les plus riches. Et l'Afrique reçoit en plus, et plus importante que l'aide publique au développement, les retours d'épargne de ces migrants. Donc ça, c'est l'image. Enfin, de l'autre côté, il faut s'acquitter du service de la dette, il faut payer des intérêts sur cette dette internationale publique qui sont très élevés, quelle que soit la notation. À notation égale, nous payons 280 points de base de plus que si nous étions un pays d'Amérique latine ou d'Asie, à notation strictement égale, à cause d'une perception de risque qui n'est pas constatée, mais qui est perçue de façon très forte. Et puis, on rapatrie des profits, et puis, il y a quand même des flux liés à la criminalité qui sont significatifs, et puis, il y a quelques effets de corruption qui font que l'argent noir et sale, net-net, sort du continent. Et quand on fait masse de ça, et qu'on y ajoute, pour des raisons de rendement du capital, de leur profit, que les banques primaires placent une bonne partie de leurs excédents de dépôts, parce que l'Afrique est très liquide, avec un excédent structurel de dépôt d'épargne. Ça aussi, c'est une idée reçue qu'il faut oublier, n'est-ce pas, qu'on serait peu parcimonieux, peu tourné vers l'épargne. Non, on est net-net, fort, robuste en épargne. Et cette épargne, on la prête, en fait, sur des marchés, en titres, du Bund, essentiellement des États-Unis, ou les banques AA du reste du monde. L'Afrique finance le reste du monde, ce qui est quand même un peu un paradoxe, et ça n'a jamais été corrélé tout de même à un développement quelconque. L'Asie était tout à fait une autre affaire. Il y a eu quelques similitudes avec l'Amérique latine, avec l'évasion massive vers les États-Unis des capitaux. Enfin, l'idéal n'est pas de devenir une espèce de grande Argentine en termes de gestion des flux financiers du monde, si vous voulez. Mais c'est quand même la situation. Donc vous voyez, le goulot d'étranglement, il est vraiment beaucoup dans notre système financier. Et ça, heureusement, ça change, et ça change, au fond, assez vite, grâce à la fintech, grâce au fait que vont devenir très rapidement les plus grands banquiers du continent, les entreprises de télécom, parce qu'au fond, aujourd'hui, les paiements vont si vite en termes de monnaie numérique que les ménages, y compris tout à fait modestes, gardent des soldes et on commence à travers leur téléphone à leur proposer des rémunérations en fait de ces soldes. Et donc, les entreprises de télécommunications, comme dans le monde entier, ont beaucoup, beaucoup plus de connaissances et de données sur les clients que les banques. Ils ont les algorithmes et ils savent exactement qui est un bon payeur. Et vous avez la faculté aujourd'hui, mettons les enfants à part, d'avoir un scoring, comme on dit, une sorte de rating d'un milliard d'Africains, à condition de s'appeler Orange, MTN, Vomacom et d'être un opérateur de télécommunications. Et d'aucune manière, les données et la capacité de faire une sélection, en fait, pour le crédit, n'est encore à la portée des banques et du système traditionnel. Donc vous allez avoir, avec la fintech, vous allez avoir très très vite la sanction sur le système un peu
archaïque dans lequel nous sommes, et une transformation qui est extrêmement chinoise, extrêmement peu européenne. Et il faut dire qu'on a de plus en plus de modèles d'échanges de pratiques avec, par exemple, une économie à la chinoise. Donc, si vous voulez, il se passe là aussi des bouleversements. Et le dernier point que je voulais mettre en avant pour montrer à quel point on fait à la fois une révolution démographique un petit peu plus dynamique que celle de l'Europe du XVIIIe siècle, qu'on est en train de faire une révolution financière grâce à la modernité du système, mais ça va un petit peu moins vite que la démographie. Néanmoins, la dette privée, le marché du crédit va changer à cause, au fond, de ces nouveaux instruments. Bon. Mais il y a la troisième, peut-être la plus immatérielle et la plus importante, c'est avons-nous les connaissances, avons-nous l'éducation, avons-nous la compétence qui, au fond, permet de générer la productivité qui, à la fin des fins, est quand même la seule chose à partager si on veut, au fond, améliorer les conditions des populations et créer, au fond, la croissance dans la durée. Et là-dessus, alors moi, c'est ce qui m'étonne le plus. C'est à quelle vitesse les technologies d'aujourd'hui ont changé l'Afrique. Dans le domaine de la recherche, où on était extrêmement contraint, isolé, aujourd'hui, on est véritablement, grâce au numérique, complètement au niveau de tout le travail de recherche avec toutes les équipes du monde. Ça, c'est complètement nouveau. On voit même des chercheurs du monde entier qui décident de s'installer en Afrique parce que sur certains sujets, par exemple sur l'environnement ou sur la médecine ou en matière de sciences économiques et sociales, sur justement les politiques publiques de développement, c'est aussi bien d'être installé près du terrain d'expérience. Bon. Mais aujourd'hui, venir s'installer à Cotonou, au Cap, à Benguerir, l'une des plus impressionnantes nouvelles universités du continent, au Maroc, mais au fond, ça ne vous coupe d'aucune des recherches qui se passent entre Tasmanie, Rio de Janeiro et l'école polytechnique. De même sur l'éducation de masse, et pas simplement la recherche. Le fait nouveau, c'est que le coût marginal d'arriver à éduquer nos enfants, qui sont quand même encore au Bénin un peu plus de 3 par femme, pas 0,8 comme en Corée du Sud. Bon, mais si vous voulez, je vous donne un exemple. Quand j'étais Premier ministre, on a fait quelque chose. L'opposition a dit que c'était pour gagner les élections. On a rendu complètement gratuite l'école primaire et secondaire. Mais on l'a fait non pas la veille de la rentrée, parce qu'on était lent, on l'a fait un mois après. Bon, le lendemain, il est rentré quand même 400 000 enfants de plus venant s'inscrire parce qu'on avait levé les 8 ou 10 euros qu'une famille devait payer pour inscrire son enfant à l'école primaire. 400 000. Je me rappelle de M. Valls, qui était à l'époque mon homologue, très honoré, et qui me disait quelle lourde charge que de préparer une rentrée où on a encore 20 000 enfants de moins. Moi, je lui ai dit, écoute, quand on en a 400 000 de plus, c'est aussi un certain problème, parce qu'on est obligé de faire les 2-8. Et les instituteurs qui ont le droit de grève et les professeurs de collège, l'idée de faire les 2-8, dont une partie dans la cour de l'école, parce qu'il n'y a évidemment pas de table. L'école numérique d'aujourd'hui, franchement, le coût marginal est nul. Donc on peut accueillir 400 000 enfants. Il faut évidemment une adaptation. Mais regardez ce qu'a été la vitesse de l'adaptation en France au jour du confinement, la façon dont sont basculées les écoles, grâce aux enseignants, vers des pratiques à distance. Ça ne va pas venir dans la nuit du 12 mars dans le continent, mais ça va venir dans les 10 prochaines années. Vous me direz, pour un pays comme le mien, il y a encore 30% des écoles qui n'ont pas l'électricité. Donc, on a quand même quelques étapes préalables. Mais vous voyez, qu'il s'agisse de la recherche la plus avancée, qu'il s'agisse du coût de l'éducation de masse, tout va très vite. Il n'y a pas dans l'histoire de pays où il y ait eu une analphabétisation plus rapide qu'un des pays les moins riches, ce qu'a fait le Niger dans les deux dernières décennies. Ce que je vous dis tout à l'heure sur la rapidité incroyable de l'espérance de vie dans sa croissance, qui veut dire la mortalité infantile ou la mortalité en couche qui s'effondre. C'est ça, l'espérance de vie. Bon. Mais vous avez le même rythme sur l'alphabétisation de nos populations. Alors, évidemment, parce qu'on part d'assez loin, les chiffres sont assez impressionnants. Mais ce qui est important, c'est que des choses qui se sont faites, vous pourriez y ajouter l'urbanisation, où aujourd'hui plus de la moitié de la population est urbaine. Ce cap que la France a passé en 1931. Bon, on l'a passé à toute vitesse aussi. Donc, il y avait un président de la République, que j'estime beaucoup, et en parlant avec lui, avait complètement changé d'avis, d'un grand pays très avancé, qui avait expliqué que les Africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire et qui a changé d'avis très, très, très vite. Et je crains, et c'est un problème de gouvernance, et j'en viens au problème de gouvernance pour conclure, je crains que notre problème, ce sont les excès de vitesse. Et est-ce que des populations sont au fond, capable de vivre de façon irénique des changements aussi rapides. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose que moi, j'enseignais déjà il y a quelques décennies à des jeunes gens, et qui n'est pas du tout partagé par tout le monde, mais il y a ce que les historiens économistes appellent mais ce n'est pas une traduction très bonne, les avantages de l'arriération. En plus, ce n'est pas très flatteur. En fait, le grand avantage d'être le dernier à se développer. Et cet advantage of backwardness, c'est assez simple, c'est construit sur le fait que, au début du XIXe siècle, les pays les plus pauvres de l'Europe s'appelait l'Allemagne, les pays scandinaves et la Suisse. Quand on explique ça aux gens au XXIe siècle, en fait, je ne vous crois pas, franchement, en moyenne. Écoutez, oui, parce que l'Allemagne, par exemple, a fait, en matière industrielle, au fond, sa croissance sur l'adoption très rapide des derniers avantages technologiques qui avaient été développés par la Grande-Bretagne, sans avoir à démanteler les étapes précédentes. Et comme vous le savez, et on y pense beaucoup pour le Made Africa, Made in Africa, le concept de Made in Germany a été demandé par les industriels britanniques comme marque d'infamie apportée sur les machines allemandes, pour montrer que c'était de la pacotille. Le problème, c'est que dès 1860, c'était devenu un emblème de qualité, que c'est resté. Le grand avantage d'entrer tard dans l'histoire des technologies, c'est qu'on le fait à des coûts beaucoup plus bas et qu'on le fait tout de suite aux standards les plus élevés. Monsieur le Président, je ne voudrais pas abuser beaucoup, beaucoup plus, donc je vais aller très, très vite et énumérer pourquoi c'est quand même très, très difficile à gouverner. Parce que, encore une fois, non pas parce que nous sommes lents, tardifs, pauvres, c'est parce que nous sommes, au contraire, extraordinairement rapides dans des changements qui sollicitent énormément à la fois les habitudes, les spiritualités, les habitudes de gouvernance, et que ça, c'est une épreuve très forte sur les sociétés. Et je voudrais juste vous dire que, là, un peu en observateur plus politique qu'en instituteur en économie, on a 4 ou 5 problèmes assez sérieux. L'un, c'est des inégalités, et notamment des inégalités territoriales. Mon pays, c'est une zone côtière qui est dans la mondialisation, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, depuis le XVIe siècle. Et nous avons au nord des pays qui sont maintenant hétérogènes aux pays côtiers, et c'est à l'intérieur de notre pays de plus en plus visible. Il y a moins de 3 enfants par femme à Cotonou, sur la côte, dans la capitale économique. Il y en a 7 à 700 km sur notre frontière nord. Donc nous avons des inégalités territoriales, mais qui sont profondément sociologiques. Or, c'est là qu'il y a eu le moins d'investissement. C'est aussi là qu'il y a eu le plus de résistance, parce qu'il y a eu infiniment plus de résistance à la colonisation que ce qu'on croit. On parlera de Tlemcen, de Tiaroy, des événements, des répressions de Côte d'Ivoire et de Madagascar après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu partout de la résistance, et très forte quand on s'éloignait, en fait, des partis qui étaient déjà volontairement, si on veut dire, parce qu'il y avait beaucoup de liens avec l'esclavage, mais dans l'économie mondialisée. Donc on a un vrai problème d'inégalité territoriale qui, dans des pays qui ont été tracés dans leurs frontières d'une façon arbitraire, font que le vouloir vivre ensemble dans chacun de nos pays peut être quand même très difficile. Et encore, nous avons la chance d'être dans des pays où il n'y a pas de guerre de religion. Dans le pays d'à côté, au Nigeria, il s'y ajoute une guerre de religion. Et nous n'avons pas un autre foyer au nord du Nigeria, au nord du Tchad, qui est de faire vivre ensemble les maîtres et les esclaves de la période précoloniale. Les pays qui, du Mali au Soudan, et tous ces pays sont en guerre, et notamment terriblement dans le Soudan, dans les deux Soudans, vous êtes dans une situation où les citoyens du même pays sont les esclaves négro-africains des maîtres arabo-musulmans, avec des façons de voir le monde qui sont celles de l'animisme d'un côté, du Coran de l'autre, mais qui surtout, depuis des siècles, sont les esclaves des premiers. Si vous voulez, le vouloir vivre ensemble, plus le caractère très sélectif des progrès économiques, si vous voulez, les infrastructures, vous avez l'aéroport de Lagos, 80 km de celui de Cotonou, 80 km de celui de Lomé, vous avez des universités partout. En réalité, vous êtes dans un pays totalement émergent. À 700 km, vous avez un désir d'enfant, de 10 enfants, et les gens se plaignent de n'en avoir que 7. Alors qu'au sud, tout est fait par les familles pour augmenter le capital culturel de la famille en ayant le moins d'enfants possible, avec les moyens médicaux et galéniques d'exécuter des choix libres dans ce domaine, qui ne sont pas du tout les mêmes au nord. Et on est matriarcaux au sud, patriarcaux au nord, à 700 km. On est animiste et chrétien au sud, on est animiste et musulman au nord. Nous avons une des grandes forces de notre démographie, de plus en plus d'autonomie des femmes au sud. Et au nord, c'est simple, au lieu d'avoir 98% de scolarisation comme au sud du Bénin, on est à 35. Quand on est à 35, il n'y a pas de filles à l'école. C'est simple. On donne la priorité absolue aux garçons, dont on espère qu'ils seront le secours dans leur vieillesse de leurs parents. Mais alors, ces deux pays qui peuvent devenir très antagonistes. Et donc ça, c'est pour moi le plus important. Plus que l'inégalité autour de la corruption, des milliardaires qui vivent à côté des slums, des bidonvilles, etc. Parce que en fait, quand on regarde notre coefficient de Gini, on a à peu près, dans la plupart des pays, des niveaux d'inégalité sociale et de richesse qui sont très proches, disons, du sud de l'Europe, avec une exception, l'exception australe, où effectivement l'Afrique du Sud, l'ex-Rhodésie, la Namibie ont les records mondiaux de l'inégalité au sens des richesses. Mais le reste hors Afrique australe est au fond relativement égalitaire. Bon, chez nous, on a une chance immense, on n'a pas de pétrole. C'est pour ça qu'on a toujours fait deux fois la croissance du Nigeria en longue période. Parce que les ressources naturelles sont véritablement, pour en débattre si vous avez une question, sont vraiment un fléau dans des pays qui ne sont pas capables, un, de les extraire par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le capital nécessaire et que c'est hyper capitalistique, et parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas le capital, d'y ajouter de la valeur. Et donc, c'est un facteur très connu, celui du Dutch disease, qui est une perversion du système économique, par les ressources naturelles. Il n'y a rien de plus cliché sans intérêt que de commencer les phrases sur l'Afrique en disant « C'est un scandale que la pauvreté de ce continent qui a tellement de richesses, qui a tellement de ressources naturelles. » Eh bien non, parce que quand on n'a pas de capital, il n'y a aucune chance qu'on transforme cela en ressources. Et c'est des ressources latentes. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec ce que l'on a dit tout à l'heure du capital financier, de sa modernité, de sa modernisation rapide, là, oui, effectivement, ça va passer de ce que les économistes appellent des actifs oisifs à des actifs dont l'activation par le capital, par les infrastructures qui permettent de le transporter et la transformation par l'industrialisation. Et tout ça peut aller très vite quand vous avez la bonne structure de capital. Donc oui, ça va devenir des ressources. Pour l'instant, c'est une utopie. Et c'est une utopie dans la grande majorité des pays. Et cette utopie est une utopie tragique dans un certain nombre de pays, parce que la prédation qui a été exercée, notamment par la Chine, sur ses ressources naturelles, a eu des conséquences dont la RDC, la République démocratique du Congo, est vraiment l'exemple emblématique. Je ne voudrais pas le mettre dans le compte-rendu, mais ma seule expérience de l'enfer sur Terre, c'est ce qui se passe là où il y a l'épidémie naissante d'Ebola, l'Ituri, il y a de l'or, il y a de l'étain, il y a du diamant, il y a l'Ebola, le VIH est né de là, il n'y a aucune infrastructure, ce sont des milices qui sont, comment dire, totalement au service des maîtres du monde des matières premières. Ils ne sont pas européens, ils sont un peu nord-américains, ils sont énormément chinois. Bon. Donc, si vous voulez, on a parfois de la chance de ne pas avoir ces ressources. Mais, évidemment, ce sont des facteurs d'explosion, de fragmentation de nos économies que ces inégalités. Pour moi, ça domine tout sur le futur, et c'est cela probablement qui sera au fond, le critère discriminant entre les pays qui vont porter le futur positif que j'ai essayé, avec mon optimisme béat, comme me disait M. de Villepin. D'ailleurs, j'observe que de temps en temps, on dit toujours que je suis optimiste, mais disons, en général, on est gentil, on enlève béat, qui changeait un peu le concept. Donc, oui, essayer de dire, par la connaissance, par le capital et sa révolution, par la révolution démographique, l'avenir du continent ressemble un peu à ce qu'a été le passé récent de l'Asie, et ça va être effectivement un futur extrêmement positif. Mais le gouverner, ça va demander des gouvernants, avec respect de l'état de droit, avec comment dire, une distance plus grande avec le crime organisé, parce que tous les pays ne sont pas exempts. Ça demande une gouvernance privée qui va aller vite et qui ira vite avec les marchés financiers. Mais ça n'est pas acquis, parce que la transition, même la transition de la pauvreté à la richesse, elle est difficile à vivre. Merci, M. le Président.
Bravo. Super. Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Lionel.